pour cet entretien avec Cornelius Schreglet, je vais proposer d'abord à Cornelius de se présenter en quelques mots, je pense que c'est le plus simple, et puis ensuite je viendrai vous poser des questions.
D'accord.
Au fur et à mesure. Donc en quelques mots, présentez-vous dans votre parcours, évidemment, faut pas raconter tous les détails de votre vie.
Ce serait un peu long.
Mais comme scénariste, je pense que vous êtes un bon spécialiste de la synthèse, donc je vous fais confiance.
Voilà. Donc en fait, voilà, j'ai été invité aujourd'hui dans ma qualité de scénariste. Pour faire bref, je suis de Genève. On m'entend là ? C'est mieux ?
Oui, oui,
ah oui, excusez-moi. Non. Alors je suis de Genève. Et je suis parti aux États-Unis où j'ai travaillé dans le milieu de la publicité et du cinéma. J'ai une formation de scénariste que j'ai suivie à Los Angeles. Et en parallèle, je travaillais aussi sur les plateaux de tournage. J'étais ce qu'on appelle chargé des repérages. Donc, je travaille dans cette activité, entre autres. Et j'ai été amené, en fait, j'ai rencontré un producteur suite à mon travail qu'il avait lu, qu'il avait beaucoup intéressé. Et on a travaillé sur un projet qu'on a développé ensemble. Et après, ce projet restait un petit peu, on va dire, latent. Et puis après, je suis rentré en Suisse et nous sommes restés en contact. Et un jour, en discutant, il m'a dit, mais quels sont les sujets suisses qui sont intéressants ? Qu'est-ce qu'on pourrait développer ? Quel serait un sujet vraiment intéressant à développer ? Et je lui ai dit, en Suisse, on a deux histoires principales, c'est Heidi et Guillaume Tell. Et puis, il a dit, Heidi, je connais, mais Guillaume Tell, est-ce que tu pourrais me le pitcher en quelques mots ? J'ai évidemment pitché la fameuse scène de la pomme et de l'arbalète que tout le monde connaît. Et il m'a dit, ah, génial, faut développer une histoire autour de ça. Évidemment, ça existait déjà. Je lui ai dit, tout à fait, je suis d'accord. Enfin, voilà, il m'a commissionné, en fait, pour d'écrire un scénario autour du personnage de Guillaume Tell. Ce qui était assez curieux, parce qu'en fait, pour moi, comme beaucoup de Suisses, Guillaume Tell est un personnage dont on a entendu parler à l'école. Et puis après, il y a toujours ce côté un peu, le caractère un peu du mythe. Et puis là, tout d'un coup, je devais créer un personnage réel, en fait, lui donner de la vie. Alors, je suis parti, j'ai fait mes recherches. Évidemment, j'ai lu Schiller, qui est la première personne qui a en fait créé un personnage, on va dire, qui a fictionalisé, qui a créé le personnage de fiction de Guillaume Tell. Magnifiquement, d'ailleurs, vraiment une très, très belle œuvre. Et surtout quand on sait que Schiller n'a jamais mis les pieds en Suisse. C'est en fait, il avait différentes personnes qui travaillaient avec lui, des assistants qui faisaient les recherches, et puis après, une fois qu'il avait les documents, élaborait son travail. Et donc j'ai lu son livre, j'ai commencé à faire des recherches, je suis allé partout où Guillaume Tell a réellement été, je dis ça entre guillemets évidemment, parce que ces endroits existent, et puis il y a des petites chapelles qui commémorent en fait les différentes actions de Guillaume Tell. Alors pour résumer brièvement, Guillaume Tell est un soldat qui revient en Suisse et marié avec un fils, Walter. Un jour, donc, la Suisse est occupée par l'Autriche et il y a le fameux Gessler, Hermann Gessler, qui est un bailli autrichien et qui impose aux Suisses du village d'Altdorf de tirer la révérence devant son chapeau qui est sur un piquet. Et Guillaume Tell ne le fait pas. Et Gessler, comme il trouve que c'est un manque de respect, lui le force, on va dire, en fait, à tirer cette fameuse pomme sur ce qui est placé sur la tête du fils, en fait. Voilà. C'est vraiment en vérité, c'est vraiment, disons, le moment, c'est vraiment le climax, en fait, de cette histoire. Et Gessler lui demande pourquoi il avait une deuxième flèche qu'il avait préparée, et il lui dit: si j'avais raté mon fils, c'est vous que j'aurais tué avec cette deuxième flèche. Et Gessler fait arrêter Guillaume Tell pour l'emprisonner dans son château fort. Mais lors de la traversée du lac, donc le lac des quatre cantons, Guillaume Tell réussit à s'enfuir. Il s'appelle la Tell's Plateau, qui existe encore d'ailleurs. C'est un rocher. Il saute de ce rocher et s'enfuit. Et un petit peu plus tard, je fais une ellipse cinématographique. Gessler, un jour, donc, traverse ce qui s'appelle la Hohle Gasse, qui est une rue qu'on peut voir encore aujourd'hui, qui est en forme un peu de grand caniveau. Et c'est là que Guillaume Tell va le tuer, en fait, avec un coup de. Enfin, avec son arbalète, avec un carreau. Et enfin, voilà, la flèche, donc, s'appelle un carreau, hein, sur une arbalète. Et voilà, donc en deux mots, donc j'ai développé une histoire autour de ça. Et puis évidemment, je me suis posé la question, forcément, qu'est-ce qu'un Suisse ? Alors pour moi, dans le cadre de la nation, évidemment, je suis pas intéressé à la nation en tant que concept universel, mais en tant que concept national, puisque c'était la mission qu'on m'avait donnée. Et donc voilà, j'ai développé ce personnage, et forcément, vous êtes devant une page blanche, vous avez toutes les directions dans lesquelles vous pouvez aller, parce que vous n'êtes pas du tout dans l'analytique, vous êtes dans l'intuitif, et l'intuitif est naturellement très, très différent. Donc voilà, juste pour débarrer un petit peu.
Donc c'est toute cette histoire que vous racontez, elle est essentiellement celle de Schiller, ou il y a d'autres sources ?
Alors, pour l'histoire même, je me suis, c'est-à-dire la
scénario,
suite,
la trame narrative.
Voilà, la trame, la chronologie, principalement Schiller. J'ai envoyé le livre à ce producteur qui, je crois, a probablement lu les 20 premières pages. Il m'a dit: il y a trop de personnages. En effet, il y a à peu près 50 personnages, ce qui est énorme, surtout pour une pièce de théâtre. Et chacun de ces personnages a un rôle et... du texte à dire. C'est donc j'ai dû réduire, en fait, j'ai dû trouver quels étaient les personnages clés qui serviraient à mon histoire, et quels étaient les personnages plus intéressants ou moins intéressants. Et alors d'autres références, forcément, là aussi, ces références personnelles par rapport à ce qu'on aime. C'est vrai qu'on en avait parlé, Hugues et moi. Et puis, j'ai pour créer ce personnage, pour le replacer, en fait, dans son contexte historique, qui était, comme on l'a expliqué tout à l'heure, les paysans sont en connexion avec leur terre. Et je crois que c'était probablement la première réflexion que je me suis fait, c'est cette connexion avec la terre, surtout à cette époque du Moyen-Âge. Et... je pense qu'on a perdu beaucoup de savoir qu'il y avait à cette époque par rapport à la... que ce soit simplement de pouvoir prévoir la météo, prévoir les choses, en fait, vivre une espèce de communion, en fait, qui est perdue aujourd'hui, et je pense qu'à l'époque, on l'avait. Juste pour dire, par exemple, on connaissait les plantes, on connaissait toutes les vertus des plantes, et c'était des informations qui étaient données de génération en génération. Et j'imagine qu'aujourd'hui, toutes ces informations sont perdues, parce qu'elles n'ont pas. Il y a un moment, il y a eu une cassure, en fait, dans cette transmission. Et voilà, je voulais reconstituer quelque chose comme ça. Et étrangement, en fait, c'est dans Carlos Castaneda, j'ai puisé mes sources. Pour ceux qui ne connaissent pas, Carlos Castaneda, C'est une personne en fait qui était étudiante à l'université en, je sais plus si c'était en Californie, je suis plus très sûr. Oui, c'était à Baja, oui. Et qui a fait des expériences sur les drogues avec un chaman qui s'appelait Don Juan, dont c'était à fin des années 50, début des années 60. Il l'a vu de manière épisodique. Et puis, ce chaman, en fait, lui a appris. Il lui a appris comment communier avec la nature. Qu'est-ce que. Voilà, quelles sont les plantes? Il y a une scène que j'ai toujours trouvée extraordinaire. En fait, ils sont dans le désert depuis plusieurs jours et Carlos Castaneda se couche parce que c'est tard, ils vont dormir. Et le chaman va vers un buisson, il arrache une feuille, il s'excuse auprès de ce buisson. Donc il parle avec le buisson, il lui explique ce qu'il va faire avec cette feuille et il la pose en fait sur le sternum de Carlos Castaneda pour lui tenir chaud. Et Castaneda s'endort et en fait il ne connaîtra pas le froid malgré que il fait très froid cette nuit-là. Donc voilà, c'est un peu ça que je recherchais. C'est une magie réelle quelque part pour mon personnage de Guillaume Tell.
Donc Guillaume Tell et Carlos Castaneda, au fond, l'essence de la suicitude en quelque sorte, si je
Oui.
simplifie un petit peu.
Oui. Alors, certainement, bon, alors là, on en vient en fait plutôt dans l'universel, parce que l'humain, comme les animaux, en fait, a sa source dans la nature et l'a quittée, en fait, malheureusement. Et je voulais en fait revenir à ça, à l'essence même de ce qu'est l'humanité.
Mais du coup, ça veut dire que votre William Tell, puisque Tell était son nom dans le scénario, hein, c'est un scénario à destination, enfin, dans la production hollywoodienne, c'est cela, hein. Et donc évidemment, Guillaume devient William. Mais ce qui veut dire que la question de, oui, mais l'identité suisse ou la dimension suisse du mythe avait une importance relativement secondaire pour vous ou pour les producteurs, ou bien c'est-à-dire, parce que quand je vous entends revenir tout de suite sur l'universel, je me dis tiens, c'est curieux. Il y a pourtant quand il est venu vers vous, qu'est-ce qu'il y a de suisse?
Oui.
Et puis on injecte très vite
Ouais.
cette notion d'universel. Il y a plein
Alors,
d'interrogations.
Ben, l'histoire de Guillaume Tell est un petit peu universelle dans le sens que c'est un personnage qui est rassembleur. On a évoqué tout à l'heure que la guerre rassemble les gens. Guillaume Tell est assez spécial. Il y a peu de nations qui ont des personnages comme Guillaume Tell. Dans le contexte historique, apparemment, c'était une période un peu. Enfin, les gens, les différents cantons, enfin, on les entendait pas de la même manière qu'aujourd'hui, puisque à l'époque, les cantons faisaient partie de d'autres empires, de principautés, des choses comme ça. Et l'idée, c'était excuse-moi, j'ai perdu le fil là.
Le rapport entre suicitude, entre guillemets, et universalité.
Voilà, le côté rassembleur, c'est-à-dire la personne qui va donner le ton, qui va rassembler les gens avec une idée, un concept. Et ici, l'idée à développer, enfin, tel que moi je l'ai vu, c'était l'idée de la liberté. C'est se battre pour être libre et se défaire en fait de la présence autrichienne qui, dans l'histoire, en très résumé, donc l'Autriche occupe ici, enfin, les terres Ourichwitz-Unterwald pour, en fait, parce qu'ils ont ils récoltent des taxes des marchands qui traversent les Alpes et qui se rendent dans le reste de l'Europe, et c'est une source de revenus importante pour eux. Donc ça, c'est ça un petit peu l'élément, en fait, on va dire... dans une histoire, il faut toujours le bon et le méchant, hein, surtout, on va dire, les histoires américaines. Donc voilà, le méchant, c'est Gessler, et le bon, c'est Guillaume Tell. Mais forcément, les personnages deviennent intéressants lorsqu'ils sont ambigus. Parce que sinon, c'est tout simplement les histoires, on va dire, plus commerciales. Voilà. Et pour revenir à cette idée de la Suisse, oui, je voulais vraiment montrer un personnage suisse. Alors après, évidemment, c'est difficile de définir avec précision ce qu'est un Suisse. Mais je pense que je me suis basé sur les clichés, en fait. Alors, quels sont les clichés? C'est ce côté... cette droiture, je pense que ça, voilà, ça c'était une idée que je voulais montrer. La droiture, le partage des gens, de ce côté un peu montagnard, des montagnards qui vivent ensemble, ce côté de partage, et en fait le rassemblement qui est créé par le danger extérieur qui fait que les gens viennent ensemble sous le, on va dire, sous le guide, en fait, devient Guillaume Tell. Voilà, tout le monde vient rassemblé par lui.
Je pourrais peut-être poser la question un peu la même, mais légèrement autrement. Dans quelle mesure le modèle scénaristique hollywoodien influe-t-il sur la construction non seulement du récit, la logique des péripéties, de la succession des scènes, le serment du scénario, mais influe également sur, oui, la construction de la figure du héros, ici, Guillaume Tell. Au fond, est-ce que ce héros n'est pas plus hollywoodien que suisse? Enfin, c'est une interrogation qui ne... que je ne peux m'empêcher d'avoir. Voilà, donc je vous la soumets, en dépit de sa brutalité apparente.
L'écriture de scénario suit des règles très précises. Ce sont des histoires en généralement en trois actes. En très résumé, vous avez l'introduction, vous introduisez les personnages. Il se passe un événement qui s'appelle le catalyseur, qui oblige les personnages à prendre des décisions qui sont généralement qui les amènent sur un terrain nouveau, et tout ça vous amène à un climax, en fait, qui oblige le protagoniste à prendre une décision majeure, et cette décision est le résultat de tout l'acte 2, en fait, de remise en question. Et puis après, finalement, voilà, puis vous arrivez à la conclusion de l'histoire. Donc, vous êtes obligé de travailler avec ce schéma. Sinon, l'histoire ne va pas s'inscrire dans les codes hollywoodiens. Après, évidemment, vous pouvez développer les personnages et leur donner les couleurs que vous désirez. Et la même chose avec les personnages secondaires. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais en même temps, vous savez, lorsque Schiller a écrit son livre, il a aussi travaillé selon des codes. Hein. Il s'est pas assis, puis ça lui est venu du... Voilà, il a placé toute cette histoire dans un cadre.
Oui, c'est pour ça que c'est une des difficultés. C'est vrai qu'on vous a invité autour de la nation, William Tell ou Guillaume Tell, c'est un peu le mythe national helvétique. Et d'une certaine manière, il s'agit bien d'essayer d'interroger l'image que la Suisse se fait d'elle-même à travers cette figure mythique. Mais toutes ces contres... Enfin, alors, Schiller, le premier, il déplace déjà, il le déplace par à partir de son inscription dans le romantisme allemand. Vraisemblablement, il en fait déjà une figure dont on peut se demander quel est le rapport avec la figure mythique originelle. Il y a énormément de déplacements. Je n'ai pas fait le travail, mais je peux supposer qu'il y a quand même déjà passablement de déplacements. puis il y a le déplacement que vous introduisez ensuite à partir de la station Hollywood. Donc l'interrogation qui est la mienne, c'est au fond, qu'est-ce qui du présent, aussi de la lecture de Schiller, vient configurer la façon dont vous construisez le récit, dont vous construisez d'une certaine manière une identité helvétique, avec 36 000 guillemets de prudence, étant donné effectivement ce lieu à partir duquel vous produisez cette histoire qui devrait être adaptée en film, idéalement. Bon, ça n'a finalement pas été le cas, mais enfin, ça pourrait être le cas encore un jour, qui sait. Moi, ce qui m'intrigue et m'intéresserait, c'est vraiment que tous ces déplacements deviennent en quelque sorte visibles, perceptibles.
C'est-à-dire qu'en fait, j'avais relativement carte blanche. Pour répondre à votre question, enfin la première partie, aucun des producteurs s'est intéressé à la réalité des faits, ou qu'est-ce que c'est que être, enfin qu'est-ce que la suicitude. Entre nous, ils s'en fichaient un peu d'ailleurs.
Au 13e ou 14e siècle ou 12e.
Oui. Ouais. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, quand j'avais terminé mon scénario. Il est parti en Floride auprès d'un autre producteur qui est un monsieur que je n'ai pas rencontré, légendaire, qui était, je ne sais pas sûr s'il vit toujours, il avait à l'époque près de 90 ans. Et il a lu mon scénario et sa première question était « Oui, c'est très bien, mais où sont les dinosaures ?» Donc, voilà, tout ce qui était le contexte historique réel n'était pas vraiment...
Donc vous les avez rajoutés, évidemment.
Les dinosaures... je ne suis pas encore attelé à cette version, non. Mais ça m'a fait beaucoup rire, en fait. Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer, mais c'était... voilà. Donc, pour vous dire, voilà, le contexte historique n'avait aucun intérêt pour eux.
Et pour vous ?
Ah, pour moi, énorme. Je me serais, par exemple, j'ai placé cette histoire donc à la période où le mythe est supposé se passer, c'est-à-dire fin du 13e, début du 14e siècle. Et je me suis donc intéressé à l'histoire de cette période. Et je termine en fait mon récit avec la bataille de Morgarten. Et en 1315, et parce que pour moi c'était le côté rassembleur, c'était ça en fait, c'était cette fameuse bataille légendaire suisse, et je me suis dit waouh, ça serait vraiment un beau truc, une belle pièce d'histoire suisse à partager avec le monde.
D'accord. Bon, moi pour ce qui me concerne, je crois que je suis au bout de mon interrogatoire. Et donc, laisse la parole à la salle. Donc, je vais faire circuler le micro.
Alors, je vais commencer par Christophe.
Bon, le décor naturel de Guillaume Tell, c'est plutôt Viking, la série Viking, parce que vous trouvez l'histoire de Guillaume Tell, du type qui tire une flèche sur la tête de son fils, vous la trouvez dans les sagas scandinaves. C'est entre la page 50 et la page 60 de Régis Boyer, le volume de la Pléiade, où il a rassemblé toutes les sagas islandaises. Hein. Donc l'origine est très claire, et là on voit comment se bricole l'identité nationale, parce que Diebold Schilling, dans sa chronique du XIVe siècle, a inséré la saga. On ne sait pas d'où il la sort, comment elle était arrivée là, mais enfin bon, les Schwitzois sont des Norvégiens, hein, ça c'est connu dans les grandes invasions, et vraisemblablement que la saga avait continué, et il va l'insérer dans le récit historique. Donc il n'y a aucun lien entre Guillaume Tell et les fondateurs de la Suisse, aucun. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le XIVe siècle, on atteste en fait quelque chose d'important dans le geste de Guillaume Tell qui manquait au serment des Trois Suisses. Parce que bon, il y a un serment, puis après ils allument des feux, puis après ils font Morgarten, mais ça manquait de donner un élément piquant. Et Diebold Schilling était un génial scénariste, donc il a placé l'histoire de Guillaume Tell à ce moment-là. Et ça donne en fait l'idée de l'histoire de l'identité des Waldstätten, c'est en fait un gang. C'est des gens qui se sont soustraits à toute autorité. Et Guillaume Tell, c'est un gangster. Aujourd'hui, on pourrait, à mon avis, transposer son histoire dans une histoire de faubourg de Mexico City ou de Guadalajara, dans des gangs. C'est vraiment... Et Schiller, d'ailleurs, a aussi compris cette énergie bizarre qui est celle des outlaws. Le symétrique de Guillaume Tell, c'est Robin des Bois, en fait. Ouais. Où on a vraiment une très forte affirmation du défi à l'autorité. Et je ne sais pas, justement, si ça peut entrer dans le schéma fondateur des biopics d'Hollywood. S'il n'y a pas un problème, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au fond, Hollywood nous raconte la naissance des peuples, la naissance des nations avec les grands hommes, etc., qui se sacrifient pour que leur peuple naisse. Et je ne vois pas dans Guillaume Tell autre chose qu'un outlaw.
Alors, certainement, Guillaume Tell a cette dimension de outlaw, comme vous dites. Un film qui était relativement similaire, c'était Braveheart. Voilà. Pour ceux qui l'ont vu, voilà, libération de l'Écosse. Un autre Guillaume, mais aussi historiquement totalement à côté de la plaque. Enfin, pour ceux qui ont vu le film, il couche avec la reine. Enfin, c'était absolument aberrant. Mais ça existait. Voilà, c'est juste. Mais historiquement, on a tordu le cou à la vérité et ça n'a dérangé absolument personne. Donc, alors maintenant, oui, Guillaume Tell a existé, est-ce qu'il était suisse ou pas? C'est vrai que je suis renseigné sur cette question. Il s'appelait Toko, en fait, qui était voilà, dans les pays scandinaves. Moi, j'ai lu aussi une autre théorie qui disait qu'il y avait des personnages finalement qui se ressemblent et qui ont eu des histoires un peu similaires. Alors, l'un a souligné l'existence de l'autre. Alors après, bon, est-ce que finalement, vous savez, au bout d'un moment, je crois que c'est pas important si la personne a existé ou non. C'est son symbole qui compte. On voit ça aussi beaucoup avec les personnages historiques, politiques ou les artistes. Finalement, il y a plein de gens détestables qui ont aujourd'hui une image extraordinaire que les gens adorent, qui sont en fait des gens relativement... je pensais par exemple au Che, voilà, qui n'était pas un personnage particulièrement sympathique, mais qui aujourd'hui, que tous les jeunes arborent sur leur t-shirt parce qu'il a un côté outlaw, comme vous dites, et il est devenu ce symbole. Le reste est occulté et ça n'a aucune importance. Et si aujourd'hui Guillaume Tell est le symbole d'une Suisse imaginaire, je pense que ça l'est auprès de, disons, enfin, d'une certaine partie de la population, pas nécessairement tout le monde, mais je crois qu'il y a un charme dans son histoire, et ce charme perdure et qui plaît encore aujourd'hui. Ouais.
Oui, mais la question pose Christophe est quand même plus rude. Si Hollywood cherchait à adapter véritablement l'histoire de ce outlaw comme outlaw, plutôt que dans une espèce de transfiguration où il devient un héros fondateur ou un héros libérateur d'une nation, si on essaie de le présenter vraiment comme outlaw, est-ce qu'on arriverait à faire un film acceptable du point de vue des producteurs de Hollywood ou pas?
Mais absolument. D'ailleurs, si vous regardez la plupart des westerns, par exemple, sont basés sur le outlaw. Donc c'est l'homme seul sur son cheval. Qui lui a compris ce qui se passe et qui va essayer de réveiller les autres. C'est-à-dire, en fait, c'est toujours un peu ambigu parce que comment est-ce qu'une personne peut avoir la réponse à toutes les questions et le peuple ne le parce qu'on fait ça, et les autres ne le voient pas. Et c'est ça, le rassembleur. C'est le visionnaire qui annonce aux autres le danger et qui leur dit « Rassemblez-vous, il se passe quelque chose de dangereux ici. Alors, faites la guerre, faites ceci ou cela. » Et beaucoup de westerns, surtout le western, on va dire spaghetti, ou les westerns américains utilisent cette image du « lonesome cowboy », comme on dit. Tarantino toujours, oui, ça marche toujours cette histoire, parce que je crois qu'on essaie tous de s'identifier avec cette personne, ce rebelle en fait, on cherche ce rebelle en nous qui est le rebelle qui va annoncer aux autres qu'il va se passer quelque chose, c'est un peu le messie en fait, c'est ce côté mythologique du messie, oui.
Moi c'était par rapport au méchant que je voulais vous poser des questions, puisque créer la figure du héros, ça a l'air assez compliqué. Le méchant, il est ambigu, vous l'avez fait très premier degré, oppresseur, ou au contraire, en tant que spectateur, on aurait peut-être aussi un peu envie de s'identifier au méchant, comme on a envie de s'identifier au méchant aussi dans les productions hollywoodiennes.
Alors, c'est une bonne question que vous posez. En fait, j'ai laissé à Gessler le rôle du méchant parce que je ne cherchais pas vraiment son ambiguïté. Par contre, dont j'avais trouvé un personnage qui m'avait beaucoup intéressé dans le livre de Schiller, qui était en fait un Suisse qui était passé, on va dire, de l'autre côté. Quelque part avait trahi sa nation en défendant les valeurs du peuple oppresseur auprès des Suisses, parce que pour moi c'est quelque chose qu'on voit souvent, on parlait aussi tout à l'heure de la Deuxième Guerre, etc. Enfin, les gens sont passés, se sont mis du côté de l'ennemi, et je trouvais que c'était intéressant de développer ce personnage, parce que Gessler je ne voulais pas trop y toucher, et j'ai voulu trouver une espèce de parcours de rédemption pour ce personnage, en fait, ce chevalier qui est aux côtés de Gessler. C'est un collabo qui finit par regretter d'avoir été un collabo, ouais. Mais qui comme je voulais pas un truc trop hollywoodien, on le voit juste dans un geste qu'il fait, mais on ne verra pas vraiment. Enfin, il va pas venir demander s'excuser. Il fera juste un geste qui mènera à sa mort, mais qui prouvera en fait sa rédemption.
Bonjour. Merci, c'est très intéressant. Juste pour vous donner le contexte de ma question, je travaille beaucoup avec la Chine, et puis, j'ai travaillé sur la notion de culture aussi. Et ce qui me frappe souvent, c'est qu'il y a cette espèce d'entité culture chinoise, culture française. Quand on arrive sur culture suisse, on est plus embêté. Et mon sentiment, c'est que ce qui nous rassemble, c'est une espèce d'ensemble de valeurs, de je ne sais pas, peut-être on pourrait parler de culture de travail. Il y a quand même des choses qui donnent aux Suisses le sentiment d'être un bloc, mais elles sont moins... Bon, on n'a pas la langue. Alors je me demandais si dans votre scénario, vous aviez réfléchi à ça, si vous aviez essayé d'exprimer quelque chose par rapport à ce qui ferait l'unité de la Suisse comme une nation.
Je reviens un petit peu là-dessus. Moi, j'aime bien ce côté. Je reviens. Pour moi, c'est cette image de la droiture, en fait, qui est un peu un cliché suisse, du sérieux, de se mettre. Le travail, la tâche, cette manière de se dédier à ce qu'on fait, c'est un cliché. Et je reviens juste là-dessus parce que je suis parti à New York, j'avais terminé mes études et je suis allé dans une agence de publicité. J'ai montré j'avais mon interview de travail et le directeur artistique m'a regardé mon travail et puis il m'a dit: vous êtes suisse? Et j'ai dit oui. Il dit: bon, alors je vous engage. Et j'ai dit: ah bon? J'ai demandé: mais pourquoi? Et il me dit: ah, mais parce que Bâle, c'est mythique, vous savez, l'école de Bâle, la graphique, tout ça, enfin, c'est bon, vous avez le job. Ah, et c'était quelque part, c'est tragicomique. Par exemple, c'est le candidat derrière moi qui aurait été, je ne sais pas, anglais ou français, il n'aurait pas eu le job. Il y a un côté, il y a un mythe suisse qui serait un peu lent à définir maintenant, mais je crois qu'il y a un mythe suisse universel. Je fais juste un tout petit aparté parce que je travaille un livre avec la Cinémathèque, si je peux rapidement en parler parce que c'est dans le sujet où Je cherche à définir le cliché suisse à travers le cinéma étranger. Et voilà, ça fait plusieurs années que je travaille à ça. Voilà. Oui. Comment est-ce que nous, comment est-ce que les étrangers nous voient? Quelle est notre identité à travers les yeux d'Hollywood ou je sais pas, enfin du cinéma anglais ou du cinéma français? Comment sommes-nous perçus? Et c'est une. Je pense que même là, il n'y a pas une réponse finale. Parce que même là, c'est quelque chose qui évolue et qui change avec le contexte. Maintenant, avec la fin du secret bancaire, et ben, les Américains ils viendront moins en Suisse parce que leur fond de commerce, c'était de tourner dans des fausses banques reconstruites en studio avec des casiers sécurisés où à l'intérieur se trouvaient les secrets d'espions ou des bijoux ou de l'or en barre. Donc voilà.
Mais c'est quoi la synthèse de l'image suisse vue par le cinéma étranger, en quelques mots quand même?
Alors, il y a plusieurs, en fait, l'image, je l'ai décomposée, il y a plusieurs choses. Bon, forcément, le numéro un, c'est la nature. C'est-à-dire la beauté des paysages suisses qui, bon, faut le dire, est vraiment unique. Et cette beauté des paysages suisses est magnifique, mais la Suisse a réussi en fait à s'accaparer les Alpes, toutes les Alpes, qu'elles soient italiennes ou françaises, et à en créer un symbole suisse. Si les Américains montrent des Alpes européennes dans un film, ça se passe en Suisse, à quelques très rares exceptions près. Les autres clichés, bon, alors c'est, comme je disais tout à l'heure, les banques. Les banques, mais alors là, je suis obligé de me contredire parce que les banques sont toujours considérées comme tordues. Je parlais de droiture tout à l'heure, donc je suis un peu, je reconnais un petit peu en contradiction, mais le banquier suisse n'est pas considéré comme peut-être typique suisse pour les Américains. La banque, oui, mais le banquier, peut-être pas. Et puis, forcément, les hôpitaux. Il y a eu ce côté historique des les eaux thermales qui sont après devenues des sanatoriums pendant la Deuxième Guerre où beaucoup de soldats de tous les camps sont venus ici pour les soldats blessés. Et puis ces hôpitaux, quelque part, sont devenus après les cliniques de luxe. En fait, se sont développés dans les cliniques de luxe où viennent aujourd'hui les stars de cinéma pour tout genre d'intervention. Donc voilà, c'est ça toujours, ça revient toujours avec ce côté suisse, de côté rigoureux, sérieux, une marque de confiance, je pense, ouais, par rapport aux prestations suisses.
Mais quand on montre les individus suisses, ils sont montrés comment? Pas des hommes, des femmes. Il y a des caractéristiques psychologiques typiques du suisse moyen dans le cinéma.
Ah oui, alors... Oui, c'est vrai qu'avec Hugo, on en avait parlé parce que j'ai trouvé en fait dans cette recherche, et c'était ça qui était intéressant, c'est croyez-le ou non, la Suisse est. Il y a ce petit côté en fait colonisateur de ces personnes qui viennent faire les films ici. Parce que finalement. Si vous regardez ces films, ça se passe en Suisse, mais il n'y a pas de personnage suisse, ou c'est très rare. Et je me suis dit, tiens, c'est curieux, il n'y a jamais de Suisse dans les films qui se passent en Suisse des étrangers. Et j'ai remarqué qu'en fait, on était un peu une colonie. Et... Alors, on vient, ils viennent dans leur palace, à Montreux, à la montagne, à Gstaad, je ne sais où. Ils sont entre eux, et les histoires se passent entre eux, et le Suisse est le cocher, le chauffeur ou la personne en fait, à l'hôtel qui vous reçoit avec un gros faux accent germanique et en lederhosen. Mais les histoires contiennent très rarement des Suisses, en fait. Et j'ai trouvé ça intéressant. Alors, ça sera encore quelque chose d'autre à développer. Alors, dans James Bond, exactement, oui, ce sont des Chinois dans une Mercedes noire, et dans l'autre James Bond qui se passe à la montagne, c'est une femme en fait, une méchante Suissesse qui essaye de le tuer.
Oui, moi j'aurais aimé revenir sur sur le scénario. Donc même si le film n'a pas été réalisé, le scénario a bien été finalisé. Et sur deux événements finalement qui se sont passés au moment où en Suisse on a appris l'existence de ce projet de film dont il avait été question lors de nos discussions pour la préparation. Donc cette manifestation à Lucerne, si je me souviens bien. Et j'aurais été aussi intéressée que vous reveniez sur les réactions des collègues du milieu cinématographique suisse vis-à-vis de ce projet de film donc sur Guillaume Tell, hein, et je ne suis pas sûre qu'il était en question de ça, de la production hollywoodienne dans les réactions. Je crois que c'était plutôt focalisé sur Guillaume Tell, en fait, je crois.
Voilà, oui, si je veux juste que je raconte c'est la fin, enfin, la suite de cette histoire. Une fois que le scénario était terminé, le producteur qui avait réuni une certaine somme d'argent pour faire le film est venu à Lucerne pour faire une annonce officielle. Peut-être certaines personnes parmi vous s'en rappellent. Il a loué un bateau qui s'appelle le Guillaume Tell. Donc dans la ville de Lucerne, il a organisé une grande partie à la Hollywood avec des acteurs connus et des réalisateurs, etc. Et donc forcément, c'est devenu un événement très médiatisé. Tous les gens de la presse, la presse principale suisse est venue faire des photos, et ça a paru pendant, disons, quelques jours partout dans les journaux. On a parlé de cet événement. Guillaume Tell revient en Suisse, c'était un peu ça l'idée. Guillaume Tell vu par les Américains, et tout le monde était très content. Et en plus, l'idée était de faire le film en Suisse, ce qui est vrai, était une idée que moi j'avais beaucoup milité pour ça, pour pas qu'on se retrouve en Roumanie ni au Canada, ce qui aurait été tout à fait possible. Et la presse donc a parlé de ça abondamment, et les journalistes sont allés vers d'autres personnalités du cinéma en Suisse pour leur demander leur avis sur ce projet. Et je me rappelle d'un réalisateur qui a dit moi ça m'intéresse pas du tout ce sujet. De toute façon, Guillaume Tell est un facho sans intérêt. Et je me suis dit, tiens, c'est curieux, c'était un jugement, en fait, c'était le coup près était tombé, que voilà, il était récupéré par l'UDC, et que c'était quelqu'un qui faisait Ulrich Schwitz Unterwald égale facho. Et je me suis dit, tiens, c'était... Alors, il n'a pas lu mon scénario, et il était venu avec cette idée préconçue que s'il fait partie des cantons primitifs, il fait partie de l'UDC. Et je me suis dit, tiens, c'est comme un peu, on l'a vu avec Jeanne d'Arc en France. Voilà, qu'est-ce qui vous permet de mettre un personnage dans une catégorie, en fait? Comme on l'a dit tout à l'heure, finalement, c'est l'aura, le mythe qui définit ce que le personnage devient. Mais le catégoriser de cette manière un personnage mythique du Moyen-Âge, je trouvais que c'était un peu... Enfin voilà, c'était un peu... je n'étais pas tout à fait d'accord avec cette idée, voilà, pour vous répondre à votre question.
On est là au cœur de quelque chose qui dépasse largement Guillaume Tell, à savoir de l'appropriation de tout, de l'idée même de nation et des symboles de la nation par l'extrême droite. Hein. Ça, c'est un des énormes problèmes que nous avons aujourd'hui. Moi, j'arrête pas de dire qu'il faut pas laisser la nation à l'extrême droite. Hein. Ce que vous venez citer sur Guillaume Tell, c'est complètement caricatural, c'est imbécile, mais malheureusement, c'est le sentiment de beaucoup de gens, et des gens de gauche, c'est que tout ce qui dit nation dit facho. Hein. Et bon, j'étais pas là hier, donc je sais pas si ce sujet a été abordé, mais ça me semble au cœur même du problème de la notion de nation. Hein. C'est évidemment que ça a été fortement confisquée par l'extrême droite. Ça continue à l'être. Jeanne d'Arc, hein, bon, Le Pen, il se rend à la fête de Jeanne d'Arc tous les ans. Quand j'étais petite, les communistes, le jour de la fête de Jeanne d'Arc, on fêtait la fête de Danielle Casanova, qui avait été une communiste déportée et morte en Bergen-Belsen, pour bien montrer que nous, on n'était pas pour Jeanne d'Arc. C'est idiot. Hein. Mais ça, c'est fondamental, absolument fondamental. Pourquoi la nation est-elle maintenant considérée, même par des gens qui ne sont pas particulièrement idiots, comme, ou il y en a qui sont idiots, mais comme une valeur d'extrême droite?
Oui, c'est le problème toujours des traditions. On pense toujours que les traditions sont n'existent que parmi les gens ultra conservateurs et que ce sont eux qui font vivre ces traditions et puis qu'elles n'appartiennent qu'à eux. Ce qui je suis d'accord est totalement faux. Moi, je me permets juste de rajouter ça parce que Hugues m'a posé la question tout à l'heure. J'ai peut-être pas bien répondu, mais mon personnage de Guillaume Tell était quelqu'un qui vivait. Je reviens un peu. L'autre jour, il y avait un article dans un magasin je nommerai pas, c'est un supermarché, dans le journal de ce supermarché de Suisse, qui peuvent prévoir la météo des mois à l'avance, rien qu'en regardant des feuilles d'arbres, de certains arbres, en observant les insectes et les oiseaux. Et ils arrivent à prévoir la météo sur 3 à 4 mois. Puis après, j'ai regardé à la fin et ils étaient, en fait, la majorité était tout à fait juste dans leurs prévisions. Et mon personnage de Guillaume Tell, tel que je l'ai créé, est un personnage comme ça, en fait, qui vit près de la nature. Il n'est pas forcément, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est gauchiste. Je crois que même ce concept, de toute façon, n'existait pas à cette époque. Mais. Qui est un rassembleur qui croit dans l'idée de la liberté individuelle. C'était ça l'idée que je voulais faire passer. J'étais pas du tout, enfin, dans une logique traditionnelle, figée de. Pardon. Voilà, oui, voilà, mais qui communique avec les autres. Ouais.
Oui, c'était pour répondre à la dernière question plutôt. Moi, je pense on peut poser le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est très bien que l'extrême droite se soit emparée de la question de la nation, comme ça on en est débarrassé dans le reste du spectre politique, et qu'on peut faire de la politique à gauche et dans la droite raisonnable sans s'embarrasser des affaires de la nation. Dans la tradition de gauche, la nation est absente, c'est une tradition internationaliste, c'est une tradition qui est fondée sur la classe ouvrière, sur le prolétariat, enfin mettez les termes que vous voulez, et puis on fête cette année le centenaire de la conférence de Kintal qui faisait suite à la conférence de Timmerwald. Elle était là, la gauche, hein, au début de la Première Guerre mondiale, elle n'était pas dans les députés SPD, les députés de la SFIO qui ont voté les crédits de guerre, évidemment. Donc c'est une autre tradition, c'est un autre héritage, et dans lequel, alors je ferai peut-être exception sur Guillaume Tell, mais là il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, pour montrer que c'est effectivement une figure qui a été récupérée de manière très très variable et qui a été une figure des Lumières, qui était une figure en effet de la liberté contre l'oppression, contre les anciens pouvoirs, contre les baillis, etc. Et là, en effet, en Suisse, on peut énerver l'extrême droite en leur disant que Guillaume Tell ne leur appartient pas, ça je suis d'accord. Mais en revanche, sur l'ensemble des caractères et des représentations de la nation, moi je suis plutôt content qu'elle appartienne maintenant à l'UDC.
Vous voulez répondre?
Je ne sais pas vraiment, je ne suis pas sûr qu'il se soit vraiment accaparé Guillaume Tell. Je ne sais pas si d'autres personnes ont ce sentiment. Pour moi, il a gardé un peu une espèce quand même de neutralité.
Oui. Mais le globalisme, c'est précisément pas l'internationalisme. L'internationalisme, c'était précisément cette idée profondément égalité des individus et des peuples à travers la planète. Le globalisme n'est pas l'idée de l'égalité des individus et des peuples à travers la planète, il est la domination des plus puissants sur l'ensemble de la planète.
Mais vous savez,
c'est la réalité de ce qui se passe, elle a réalisé aussi des discours. Oui. Nous voulons pouvoir exploiter la planète comme bon nous semble, c'est ce que disent les globalistes. Bon, Jean-Michel.
Merci. Merci pour votre intervention. J'aimerais revenir sur la question du scénario et un peu vos motivations. Donc vous avez parlé assez vite de l'universalisme, vous avez parlé de Castaneda. Donc c'est vrai qu'on voit finalement que cette figure du héros national peut très très vite rentrer dans une logique. Elle a été intéressée à un Allemand, donc Schiller, qu'on a fait une pièce romantique. Elle intéresse Hollywood. Donc c'est vrai que quand vous dites un héros rassembleur, est-ce qu'au fond, vous vouliez vraiment... Enfin, c'était pas un film politique que vous vouliez faire. C'était plutôt... un film qui mettait en avant un héros proche de la nature, qui nous ramenait peut-être à une certaine sagesse. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous pouvez peut-être en dire plus par rapport à ça ? Parce que je trouve que, d'un côté, on a l'impression qu'on a un film qui a peut-être une visée un peu politique, puis par ailleurs, c'est quand même effectivement les codes d'Hollywood, donc il faut quand même qu'on trouve une échappée vers un grand public.
Bah, quand vous racontez...
Oui. Et je complète.
Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas du Ayn Rand dans votre manière de relire Schiller ?
Là, ça devient dangereux. Non, alors Ayn Rand ne m'a pas servi de... C'était pas mes sources. Bon, ce serait une autre discussion. Pour répondre à la question...
sera la dernière question.
Oui. Quand vous racontez une histoire, vous pouvez choisir l'angle pour raconter cette histoire. Une histoire racontée par 10 personnes différentes, c'est 10 histoires différentes. Parce que vous avez, voilà. Pour moi, Guillaume Tell, je voulais revenir à ce personnage d'un outlaw, d'une personne visionnaire, comme j'expliquais tout à l'heure. Pour moi, l'idée de rassembler, c'est rassembler autour d'une idée. C'était ça que je voulais dire. Rassembler autour d'une idée, c'était ensemble, on est plus fort et on peut être libre. On peut s'asservir en fait de l'occupation autrichienne et ainsi. Faussement, en fait, voilà, on parlait du Grütli tout à l'heure, c'était l'événement qui aurait amené à ça, à Grütli, Morgarten, etc. Espèce de mythe fondateur de la nation, mais pas du tout dans la manière dont certains partis politiques le voient. Plutôt dans le côté de Breivart, je reviens à cette idée d'universalité, parce que toute nation, à un moment, s'est construite. Monsieur l'a décrit tout à l'heure, sur un pays, sur un territoire, il y avait quand même différentes populations avec différentes valeurs ou idées, ou selon aussi les régions géographiques. Si vous êtes montagne et au bord de la mer, bah forcément c'est une influence sur votre sur vos us et coutumes, sur votre manière d'être. Et puis il y a un moment, il y a des événements qui rassemblent ces gens, qui finalement doivent trouver quelque chose en commun. Et ici, pour moi, c'était en commun, c'était Auschwitz-Unterwald, c'est des terres qui se ressemblent, et puis finalement, c'était cette idée, on vient de la même terre, on a les mêmes montagnes autour de nous, et on essaie de protéger la même chose. Voilà.
Mais bon, j'aimerais quand même compléter, mais c'est l'universalité de quoi ? C'est-à-dire, c'est l'universalité du principe schmittien de... le politique se définit par l'ennemi, c'est-à-dire j'ai des autres que je veux détruire, démolir, qui me nuisent, qui m'oppressent et que je dois abattre à coûte que coûte. C'est-à-dire c'est quand même une drôle d'universalité, vous voyez, c'est une universalité qui passe par l'extermination de l'autre. Comme l'autre fait la même chose, bon, on dira que c'est universel, mais c'est quand même une figure un peu particulière.
Oui, le outlaw. Maintenant, alors, je vais pas parler de la morale de si c'est juste de tuer ou pas. C'est-à-dire qu'il faut amener les autres à comprendre que il faut faire certains gestes pour obtenir ce qu'on veut obtenir, que ce soit faux ou non. Dans mon scénario, Guillaume Tell engage ses compatriotes, on va dire, pour faire court, à la guerre contre les Autrichiens, mais il dit à son fils, je fais aujourd'hui quelque chose qui est faux, mais je n'ai pas le choix. Les événements, le contexte fait que je le fais, mais je ne suis pas un exemple de par ce que je fais. Alors voilà, c'est comme ça que, disons, personnellement, j'ai choisi de montrer quelque chose qui est moralement discutable.
Merci. Bien, je crois qu'on va vous laisser.
Merci.
Merci beaucoup Cornelius Schreglet pour nous avoir fait part des aventures autour de ce scénario. Donc là, nous prenons une pause d'une demi-heure environ. Oui, une demi-heure pile. On est à l'heure, c'est formidable. Donc nous nous retrouvons à 16h30 pour entendre François de Smet qui va nous parler autour d'une nation nommée Narcisse. Je pense qu'on ne sera pas très loin du sujet présent. Nous verrons. À tout à l'heure et excellente pause à chacun. Merci.